Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Eh, Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end. Peut-être êtes-vous déjà en vacances, on vous souhaite de très bonnes vacances. Et si vous êtes sur la route, évidemment, faites très attention à vous. Justement, sur la route, nous nous sommes en direct exceptionnellement aujourd'hui du salon Rétromobile, porte de Versailles, le salon des voitures de collection. Nous sommes au pavillon 2, si vous voulez venir nous voir ce matin. Et Anne-Marie Légégé, et eh bien vous êtes les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un programme très chargé. Angleterre-France, évidemment, c'est l'événement du jour. Les Bleus retrouvent Twickenham 2 ans après avoir giflé les Anglais. Est-ce toujours un exploit de gagner en Angleterre? C'est la une des GG dans quelques instants. 10h, le bras de fer, le PSG en très grande forme qui écrase tout sur son passage. C'était encore le cas face à Monaco hier. Victoire 4-1. Ce PSG est-il plus fort sans les grandes stars? On se posera la question. Et puis 10h, 11h, Mathieu Jalibert, l'homme du crunch, le joueur qui ne peut pas se rater, le génie bordelais. Peut-il vraiment se faire une place dans cette équipe? Là aussi, on se posera la question et vous allez voir sur tous les débats. Eh bien, les GG ne sont pas d'accord. Les grandes gueules du sport ce matin, spécial crunch. Évidemment, une grande gueule qui, comme les Anglais, il nous en faut pas beaucoup pour le détester. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Mais en revanche, moi j'adore le crunch, le vrai.
Ça
croustille sous la dent, j'ai toujours adoré ça.
Il est 9h et t'as déjà faim, tu parles déjà de bouffe.
Ben oui.
Ça va mon Chris?
C'est l'heure, c'est un jour important. Hein. Angleterre-France, cet après-midi, ça va être énorme.
Il faut les détester les Anglais?
Bien sûr. Moi c'est de naissance. Hein.
Ah oui, on est biberonné à ça?
Ah oui, complètement.
Ok, le salon Rétromobile, ça te parle un petit peu, toi
J'ai été voir les anciennes Formule 1, là. J'ai vu l'ancienne Formule 1 d'Alain Prost, j'ai vu celle de Jackie Stewart, la Matra de Jackie Stewart. Il y a quelques belles petites caisses, quand même, dans l'endroit. Mais il y en a un qui a les yeux qui pétillent encore.
Exactement, et je vais vous le présenter tout de suite. À chaque fois que nous faisons une déloc autour de la voiture, il est là, peut-être parce qu'il adore les moteurs, je ne sais pas. Une grande gueule qui, comme les Anglais, il roule n'importe comment. Marc Madio, salut Marc.
Salut.
Ça va, Marc?
Ça va très, très bien.
On dirait un enfant à Disneyland.
Oui, exact. C'est l'endroit arrivé ici. Là, j'ai eu le temps de voir une GT40, j'ai vu une AC Cobra, j'ai vu des Formule 1. J'ai même vu une vieille Williams de Formule 1 qui est là, qui avait piloté Jacques Lafitte. Non, c'est
extraordinaire. T'as pris le chéquier ou pas?
Non, je l'ai laissé dans la voiture parce que si je prends le chéquier ici, je vais rentrer à la maison ruinée, je vais avoir des soucis.
Oui, c'est pas avec madame?
Avec madame.
Oui, il faut faire attention, évidemment, on veut pas de problème avec Mathieu. Mon cher Marc. Une grande gueule qui, comme les Anglais, il aurait bien besoin de prendre un peu le soleil, celui-là. Fred Veil, salut Fred.
Mais je prends le soleil, salut.
Ah bon?
Je suis à Limoges, je prends le soleil.
C'est un peu le même temps qu'en Angleterre, non?
C'est pareil. Oui, on nous compare souvent d'ailleurs.
Ça va, mon Fred?
Ça va.
T'avais fait le salon de l'auto avec toi?
J'avais fait le salon de l'auto.
Le salon rétro, là. Comme ça, ça te,
moi,
ça,
je suis
te
fan de vieilles voitures, mais malheureusement, je rentre dans aucune. Donc, c'est l'avantage, j'ai pas besoin de prendre le chéquier. Moi.
Il était vachement mieux au salon de l'agriculture.
Ouais, c'est ça. Là,
on a pris
dans
pour
les
une
tracteurs.
Vache de concours. Cette
ouais, pas... mais j'aurais gagné des trucs, moi, contrairement à Christophe.
Il y a pas des vieux humeurs? Non, ça n'existe pas.
Si, alors j'espère, je vais aller voir ça. J'aime bien, ça me passionne.
Ok, bah oui, toi l'Américain. Et puis une grande gueule qui, contrairement aux Anglais, il n'a jamais gagné Roland Garros. Julien Benneteau, salut Julien.
Quel Anglais a gagné Roland Garros?
Il y en a
Fred
deux.
Fred Perry, 1935. Et le premier à avoir gagné Roland-Garros, c'était un Anglais en 1891.
Voilà. Toi. Tu vois?
La légende vivante.
Mais bien sûr, sûr.
J'adore.
C'est Christophe, on le connaît, tu vois.
Mais je vais te le répéter chaque samedi, j'ai gagné Roland-Garros.
C'est vrai, mais moi chaque samedi, je vais te refaire la même vanne. Ça va, mon Julien?
Ouais, trop bien d'être ici. Je ne connaissais pas ce salon.
On est tranquille, on est entre nous pour l'instant.
Jusqu'à 10h.
Ouais.
Mais ma première impression, ouais, je suis. Alors moi, j'ai pas vu les vieilles voitures, j'ai vu des stands où il y a des belles affiches, etc. Et j'ai vu des photos de Ayrton Senna, vous savez comment je suis fan, d'époque et tout.
T'es pas supporter de Prost, toi?
Non.
Ah bon?
Ouais.
Il a appelé son fils Ayrton.
Ah oui,
Ayrton. Fils de
ah oui, son fils s'appelle Ayrton. Ayrton. Voilà. En même temps, je préfère Ayrton que Alain. Pour un enfant de 9 ans.
Ça revient à la mode, Alain.
Aujourd'hui,
ça revient à la mode.
Et non, en tout cas, ouais, le stand, enfin, tous les stands valent le détour. Ça a l'air vraiment. Enfin, pour moi, c'est une découverte.
Bon, bah en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ici, venez nous voir. Je le disais, nous sommes au pavillon 2, ça ouvre à 10h. On vous attend nombreux pour admirer les GG ce matin. On va débuter cette émission avec un proverbe anglais qui dit forcément, jour de crunch, en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis.
RMC, RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Nous avons rencontré une lignée d'artisans bouchers, pas comme les autres.
Et c'est de l'essai. L'essai de l'équipe de France.
Un clan à la tête d'une boucherie charcuterie depuis plus d'un siècle.
Incroyable ! Sixième essai français !
46 à 10 !
Moi, je suis la cinquième génération. Il y a encore mon père, il y a encore aussi ma grand-mère pour nous donner des conseils. Mais sinon, c'est l'entreprise familiale.
Les chats s'en vont ! Les chats s'en vont derrière nous !
C'est le, comment dire, le coup de grâce. Tu vois, la 72e minute,
les Anglais quittent le stade.
Face à la stérilité, c'est incroyable. Quand même, anglaise, hein.
J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur.
Le septième essai français. Écoutez, ça gronde à Twickenham.
Est-ce que c'était une boucherie?
Et voilà, un essai de Ramos, un doublé de Flamand, un doublé d'Olivon, un doublé de Penaud. On a mis fin à 16 ans de disette et on inflige historiquement la plus large défaite de l'Angleterre ici à Twickenham. Victoire des Bleus, 53 à 10.
Tu perds ta concentration et tu es bon pour la boucherie.
Oui, Sensei.
Comment?
Oui, Sensei.
Et après cette victoire il y a deux ans, on a envoyé la même équipe parce que forcément on a envie de voir le même scénario. Ils sont en direct de Londres avec nous, Denis Charvet, Wilfried Tamblier. Salut les gars.
Morning.
Salut messieurs.
Salut.
Oh, il n'est pas réveillé, Denis. Il est 8h15 là-bas.
Oui.
Oh, le Duns.
Une heure de moins.
Mais non, mais je suis réveillé, mais j'aimerais tellement être à vos côtés là-haut.
Ouais, ça va.
Et nous, on aimerait bien être avec vous. C'est vrai. Un jour de crunch, nous, on est au salon rétro mobile et vous êtes à tout
le. Il a dû aller se gaver au petit déjeuner parce que tu sais que les petits déjeuners dans les hôtels en Angleterre, c'est. Il y a provision.
Il est 8h.
Ah, t'es pas encore allé.
Avec Wilfried, on y va.
Ils font l'émission à jeun.
Bon, vous savez quoi,
t'inquiète, des quelques binous hier soir, à mon avis,
on fatigue. On va pas vous déranger longtemps, mais en tout cas, on a besoin de vous quand même pour le premier débat de cette émission. Oui, rappelez-vous, hein, vous l'avez entendu dans cet extrait, nous étions le 11 mars 2023, le 15 de France humiliait le 15 de la Rose. Une fessée qui est entrée dans l'histoire, les Bleus ont marché sur Twickenham. Deux ans plus tard, les hommes de Fabien Galthié sont-ils capables de réitérer cette performance? Sachez que cela fait 40 ans que le 15 de France ne s'est plus imposé deux fois de suite en Angleterre dans le tournoi des Six Nations. Alors la musique qui fout les jetons est cette question. Est-ce toujours un exploit de gagner à Twickenham? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Évidemment que oui.
Fred Weiss.
Évidemment que non.
Marc Madio.
Oui.
Julien Beneteau.
Évidemment que oui.
Oui. Denis Charvet.
Oui, évidemment.
Alors on va débattre dans quelques instants. Fred Weiss est tout seul, mais ça ne lui fait pas peur. Wilfried Tamblier, tu as rencontré évidemment les Bleus tout au long de la semaine. Est-ce que ces Bleus craignent encore l'Angleterre dans ce stade mythique?
La réponse est oui. Déjà parce que ce match n'est jamais comme les autres. L'entraîneur adjoint William Servette, qui lui s'occupe des avants, en parlait cette semaine à Marcoussi, presque avec sensibilité.
C'est toujours des matchs particuliers de jouer les Anglais. C'est un plaisir, c'est nos plus beaux ennemis. On les rencontre avec grand plaisir et beaucoup d'engouement.
Des décennies de crunch, des moments épiques, et malgré une série de 3 victoires consécutives des Bleus face à eux, et le 53-10 infligé ici même à Twickenham il y a 2 ans, la pire défaite à domicile de l'histoire du rugby anglais, eh bien le capitaine Antoine Dupont veut toujours sentir le poids de la tradition.
On peut pas banaliser le fait de venir jouer à Twickenham. C'est toujours quelque chose de sacré. C'est toujours des très grandes parties. On a eu la chance d'en gagner, mais on en a aussi perdu. Donc il faut avoir cette mémoire-là aussi. Mais c'est toujours un grand privilège de venir ici.
Tu l'as dit, JC, 1983, la dernière fois que les Bleus ont gagné deux fois de suite à Londres. Et après les 3 victoires de suite ces dernières années, 1978 pour trouver trace plus généralement d'un 4 à la suite dans le tournoi. Alors Fabien Galthié et ses joueurs peuvent encore marquer l'histoire aujourd'hui. Mais le sélectionneur prévient, rien n'est écrit, même au regard des difficultés anglaises actuelles.
Ça sera Twickenham, ce stade assez mythique et un adversaire féroce, physique, intense, ambitieux. Qui a trôné aussi et qui veut à nouveau dominer le rugby européen, voire le rugby mondial. Donc c'est une équipe qui a le potentiel de redevenir très vite ce qu'ils ont été. Et ils n'en sont pas loin.
On espère qu'ils attendront au moins jusqu'à ce soir et plus tard pour revenir au sommet. Mais en parlant de sommet, oui, ce match en est toujours un.
Merci beaucoup Wilfried Tamblier, tu restes avec nous pour ce débat. Le 32-16, le hashtag RMC Live, est toujours un exploit de gagner à Twickenham? Nous ouvrons cette émission, les GG, par ce débat évidemment. Le match c'est cet après-midi, ce sera à suivre sur RMC. Christophe, on commence avec toi, pourquoi c'est toujours un exploit?
Parce que c'est du même acabit que pour une équipe de foot, une équipe de France d'aller gagner en Allemagne ou en Italie, ou pour une équipe de France de basket d'aller s'imposer aux États-Unis. Mais ça je crois que c'est jamais arrivé, non? C'est déjà arrivé?
Non, pas encore.
Eh ben, tu vois, un jour vous y arrivez.
Il est déjà attaqué, il a rien.
Non, 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 mais j'aime cet argument, au contraire, continue.
Et au lendemain de cette victoire, si quelqu'un vient de se dire en disant est-ce que c'est encore un exploit de gagner aux États-Unis? Ben oui, on est dans la même situation, c'est-à-dire le basket, c'est un sport américain, c'est le sport par excellence aux États-Unis. Eh ben, le rugby, c'est le sport par excellence des Anglais qui l'ont inventé, qui sont deux fois plus de pratiquants. Il y a deux fois plus de pratiquants dans leur pays que chez nous. Il y a 716 000 personnes qui pratiquent le rugby en Angleterre. On est à 300 et quelques, nous, chez les Français. Donc, comment tu veux enterrer une équipe? Comment tu veux te dire que aller gagner
on dans n'enterre le pas, temple, mais on
dans le
temple
du rugby à 82 000 spectateurs qui, dès que tu commences à perdre un peu pied, te mettent à chanter des chansons historiques et qui te mettent le bec dans la terre, comment tu peux dire que ne pas gagner, enfin gagner, ce serait presque normal, quoi? Mais non, c'est pas du tout normal d'aller gagner en Angleterre. Il y a qu'à voir la liste depuis la nuit des temps, on reste déficitaire en nombre de victoires là-bas. Et puis cette rouste dont on parlait il y a quelques instants, elle est encore dans toutes les mémoires anglaises, et on sait très bien qu'un Anglais vexé est un Anglais qui peut faire mal. Ils n'ont qu'une chose en tête aujourd'hui, c'est nous taper. Donc ce serait un vrai exploit d'aller les gagner une deuxième fois de suite.
Okay.
Donc voilà.
Ce serait un exploit pour toi, mais tout de même, il y a ce côté, on désacralise. Alors, à un moment donné d'aller gagner.
Je sais pas ce que disent les bookmakers, mais je pense que l'équipe d'Angleterre est favorite.
Ah, pas du tout. Les Bleus sont archi favoris.
Allez voir les bookmakers anglais. Parce que là, on parle évidemment les bookmakers.
Les bookmakers anglais qui sont anglais, qui pensent à leur nation.
Ouais, mais c'est pareil, hein, je pense que les bookmakers anglais, les Français sont favoris. Je ne sais pas parce qu'on est favoris que c'est pas un exploit d'aller gagner là-bas.
J'adore cet argument, moi. J'adore les arguments utilisés par Christophe. Suis-je le seul à lire les conducteurs? Est-ce que c'est un exploit? On n'est pas en train de dire est-ce que c'est dur de battre les Anglais en Angleterre? Bien sûr que c'est dur de battre les Anglais en Angleterre. Sauf que comment on peut considérer que c'est un exploit quand la dernière fois que tu as joué contre eux, au même endroit, tu leur mets 53-10?
Mais un match, c'est un match.
Oui, mais ce n'est pas un exploit.
Non, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Et puis, justement, il y a le point de l'histoire.
C'était pas un match.
Il y a le point de l'histoire.
C'était donc pas un match.
L'année dernière, tu te rappelles, c'était un match.
Non, mais en fait, encore une fois, soit vous ne lisez pas.
Est-ce que tu t'es rappelé?
Il n'y a même pas besoin de lire le conducteur. Il n'y a pas besoin de lire.
C'est pas un exploit de battre les Anglais. C'est une performance. Parce que c'est dur de battre les Anglais. Parce qu'ils ont une belle équipe. Parce qu'à la maison, ils sont un peu transcendés. Sauf que ça serait mésestimer l'avantage physique de l'équipe de France, l'avantage de connaître de connaître le public, de savoir comment ça se passe, de jouer très souvent dans des ambiances très difficiles. Non, c'est un match difficile, c'est un match sacré. Et d'ailleurs, quand on écoute les joueurs parler, à aucun moment ils disent oh, on flippe, on va perdre. Non, ils disent c'est un match sacré. Oui, parce que tu gagnes. C'est un temple du rugby. Bien sûr que t'as envie de jouer là-bas. Mais est-ce que pour autant t'as peur de jouer? Est-ce que tu penses que tu vas perdre? Non. Et d'ailleurs, encore une fois, vous l'avez dit, et c'était mon argument. Malheureusement, tu me l'as volé un petit peu. J'y sais. Les bookmakers sont plutôt d'accord avec ça. Oui, mais si les bookmakers pensent que c'est jouable, si les Français pensent que c'est jouable, si tout le monde pense que c'est jouable, à un moment, c'est dur parce que c'est une belle équipe d'Angleterre, évidemment.
Ok, tout le monde veut réagir et tout le monde veut répondre à Fred. Denis Charvet et ensuite Marc et Julien, évidemment. Denis.
Non, je pense que c'est si tu avais joué là-bas, Fred, dans ce temple du rugby que l'on nomme, tu te rendrais compte que c'est un véritable exploit que de s'y imposer.
Moi, je joue à 4 contre 15.
Ce n'est pas un problème. Mais non, mais c'est pas un problème de génération.
Le public, ça n'influe pas. Hein. Quand tu es un sportif, au niveau, le public n'influe pas.
Non, mais attends. Tu me parles du match il y a 2 ans. Le match il y a 2 ans, il va rester dans les annales, évidemment. Mais ce n'est pas une référence en soi parce que c'est arrivé une fois dans l'histoire. Une seule fois dans l'histoire du rugby. De mettre une pâtée comme ça aux Anglais. C'était tout nous souriait. C'était le jour qu'il fallait, enfin, c'était le jour de gloire qu'il fallait. Mais Twickenham, il y a une pression à Twickenham qui est particulière, qui est pas du tout la même qu'ailleurs, même dans les autres stades. Tu ressens le poids de l'histoire, mais tu ressens le poids du public, tu ressens tout, et c'est magique. Parce que évidemment que tu peux gagner aujourd'hui, que t'es favori, mais ça n'a rien à voir. C'est comment tu vas vivre cet instant, comment tu vas vivre cette pression. Ben, tous les joueurs, ils vont la même vivre comme je l'ai vécu moi à l'époque. Comme tout le monde, tous nos frères de jeu l'ont vécu. Avec la même boule au ventre, le même.
C'est plus pareil, Denis. Denis, tu peux pas dire ça. Ils sont habitués à jouer contre les
Arrête, dans ce Fred, style. Fred, et ça change pas aux joueurs. Mais Fred, écoute-moi, je parle aux joueurs. Je parle aux joueurs, je sais ce qu'ils ressentent. Ils ressentent la même chose. Tu dis des bêtises. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est 80 000 personnes, c'est un sport collectif. C'est extrêmement dur. C'est difficile parce que t'es pas seul sur un cours de commun que.
C'est une énorme motivation, au contraire, pour moi. Au contraire, c'est une énorme motivation.
La motivation, ça n'a rien à voir, la motivation. Ben si. Je te dis que c'est
plus du côté de la motivation que du côté de la peur et de la tension.
C'est pas la peur.
Non, tu...
Denis, vas-y Julien et après Marc.
Non, c'est pas parce que t'es favori le jour J que c'est que si tu assumes ce statut de favori que tu fais pas un exploit. Les chiffres sont là pour le vérifier. Seulement 12 bien victoires sûr. Dans l'histoire de l'équipe de France à Twickenham. Une victoire en 19 ans et depuis 40 ans, jamais un 15 de France a gagné deux fois de suite à Twickenham.
Oui, mais tu sais que c'est pas l'histoire qui joue, hein.
Si.
C'est les joueurs.
Pourquoi?
Pourquoi c'est pas l'histoire?
Parce que dans toute l'histoire, il y a eu. Et là, on va me dire, oui, on a une génération exceptionnelle.
Oui.
Mais on a eu des générations exceptionnelles dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, peut-être pas dans les années 90. Mais enfin, quoique, on allait gagner des séries en Nouvelle-Zélande. Donc, dans l'histoire du rugby français, on a eu des générations exceptionnelles. Et ces générations exceptionnelles, elles ont gagné que très peu de fois là-bas. Parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que c'est le pays du rugby, c'est le temple du rugby. Et ne t'y trompe pas, s'il gagne à 19h45, Galtier, il te dira que c'est un exploit. Il aura raison.
Lui, en tant que communicant, il va évidemment employer ce terme.
Dupont,
c'est évident.
Et Dupont, le meilleur joueur du monde.
Tu n'aimes pas le rugby, tu ne connais pas ce sport.
Mais ça n'a aucun rapport.
Et Dupont,
À chaque fois que réduire Fred sur il n'y connaît rien au rugby, on va pas faire ça sur tous les débats. Et Fred, de dire évidemment de jouer devant 80 personnes, c'est une motivation.
C'est la motivation extrême.
Ça a pas un impact, etc. Mais évidemment, Dupont, il en parlait cette semaine, ça a un impact énorme. Et toi, qui viens d'un sport où des salles hostiles, ça n'a pas un impact
pas
sur
tout.
Le collectif, ça n'a pas un impact sur l'arbitrage.
Mais bien sûr que non.
Mais bien sûr que oui.
Je peux pas te dire ça.
Et en rugby, c'est pareil.
Dupont le dit.
Il dit les arbitres. Et les mecs,
j'ai joué devant 25 000 personnes en Serbie. On les a battus quand même. Et ça change rien. Aucun rapport. Au contraire, on était motivés. On n'était pas. En fait, ça fait partie du jeu.
Bien sûr que tu es capable de gagner.
Mais c'est
un exploit d'aller gagner devant 25 000 personnes.
C'est plus un exploit.
Ok, mais juste si. Deux secondes, je reprends parce qu'on va bientôt se faire virer du pavillon 2 parce qu'on est tout seul, on n'arrête pas de crier, les gens se demandent, mais attendez, c'est qui ces malades? Marc Madiot n'a pas encore parlé. Pour toi, c'est un exploit de gagner en Angleterre.
C'est un exploit quand tu rentres dans le stade, qu'il y a 80 000 spectateurs, que tu as les hymnes, le frisson qui monte, quand tu es en Angleterre, que tu es français, que tu représentes ta nation face. Face à un grand pays.
Bah évidemment.
Face à un grand pays, c'est forcément un exploit que de gagner là-bas. C'est forcément un exploit parce que pendant toute la durée du match, t'as cette pression, t'as toute cette histoire qui ressurgit.
Mais à un moment donné, je suis d'accord avec Fred. C'est-à-dire qu'il y a des nations que l'on désacralise. Tu parlais tout à l'heure, Christophe, de l'Allemagne. En 82.
Mais l'Allemagne en rugby, on ne sait pas s'il y joue.
Laisse-moi finir. On parlait de foot. Il faisait une analogie sur le foot. En Allemagne, de gagner dans les années 80 en Allemagne, c'était un véritable exploit parce que ça n'était jamais arrivé. Oui. Mais depuis, l'équipe de France a été double championne du monde. Depuis, l'équipe de France a gagné en Allemagne. Il n'y a plus cette même saveur. Est-ce qu'il y a toujours cette saveur de gagner à Twickenham?
Quand tu gagnes un match, une fois, dans ton histoire, c'est plus un exploit de le refaire.
Mais bien sûr.
En gros. Donc,
Peut-être, c'est la notion d'exploit.
Pour moi, c'est désacralisé. Quand tu leur mets une poule comme ça chez eux, désacralisé. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, vous êtes en train de vous méprendre sur ce que je suis en train de dire. En train de dire que l'Angleterre, c'est pas dur de les battre chez eux. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que c'est plus un exploit. Et est-ce que les Anglais seront pas en train de se dire s'ils battaient la France, finalement, c'est nous qui avons fait créer l'exploit en battant la France, vu que personne nous voyait gagnant? Posez-vous cette question aussi.
Oui, mais il n'empêche.
Posez-vous cette question.
N'empêche.
Eh bien, on va se poser cette question.
Donc, c'est un exploit des deux côtés, donc c'est plus un exploit.
Denis, je reviens. Il est 9h27. On va marquer une petite pause. Et on revient évidemment sur ce débat, parce que les GG ont encore beaucoup de choses à dire sur cette Angleterre-France. On en parle
de la provoque inutile, à partir de
11h, de toute façon, de Mathieu Jalibert.
Il a décidé de nous mettre de mauvaise humeur aujourd'hui.
Exactement.
C'est mon but ultime.
C'est pas très difficile.
C'est pas fini parce qu'on a 3 heures d'émission, les copains. Allez, à tout de suite sur RMC en direct du salon. Rétromobile, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
You don't understand why with resilience because
les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile.
It was like traumatisé.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, de retour dans les grandes gueules du sport, évidemment, avec Denis Charvet, l'anglais, en direct de Nantes. Oui, Julien.
Tu vas passer le jour
des commentes en anglais,
ou pas?
Pardon. Tu commentes en anglais ou pas cet
après-midi?
Sorry.
Ah, bien, vous faites ça, ça serait un exploit. Ça, ça serait un vrai exploit.
It's a try, Denise.
Try, Wilfried. Good.
OK. On va continuer en français si ça vous dérange pas. Mais merci d'essayer, en tout cas. À partir de 10h, on ouvre le débat sur le Paris Saint-Germain. Ce PSG est-il plus fort sans les grandes stars? Les GG ne sont pas d'accord. Ce sera le bras de fer et ce sera un 2 contre 2. Mais restons un instant sur le crunch, toujours avec Denis Charvet, Wilfried Templier en direct de Londres, avec vous au 32-16. Dans quelques instants, on accueille Franck. Notre débat, est-ce que c'est toujours un exploit de gagner à Twickenham? Denis, tu voulais répondre à Fred sur le débat.
Oui, non, je veux juste rajouter que, évidemment, que l'Angleterre est moins forte que par le passé, quoique elle revient à un certain niveau. On l'a vu pour la tournée d'automne, on l'a vu en Irlande, nous avons fait un très très gros match. Donc ça va être un gros combat cet après-midi. Mais c'est surtout le rituel, moi, que je voudrais mettre en avant à Twickenham. C'est-à-dire qu'il y a le rituel de l'arrivée du bus des Anglais avec cette foule qui les attend, qui les acclame. C'est assez impressionnant. Nous, chaque fois avec Wilfried, on essaie de le regarder parce que c'est saisissant. Et puis, il y a ce stade qui est particulier. Il y a les Anglais qui mange avec il y a toujours les Rolls Royce, je crois, sur le parking où ils mangent avant le match.
Enfin, ça, c'est pour les gogos, le décorum, pour les joueurs, internationaux.
Les joueurs, oui, mais les joueurs, quand ils viennent jouer, les Anglais, quand ils viennent jouer à Twickenham, c'est particulier. C'est un temple, c'est leur stade. Donc, moi, c'est en ça que je dis que c'est très, très dur de s'imposer là-bas. D'ailleurs, on s'est très peu imposé. Mais comment on peut dire que c'est pas un exploit? C'est pas facile.
Donc,
c'est
tellement
dur de jouer, de gagner là-bas.
Denis, on est bien d'accord, t'es en train de nous dire que le 15 de France qui perd à Twickenham cet après-midi, ce serait la logique.
Non, mais c'est 12 victoires en 53 matchs à Twickenham, chiffre.
C'est pas la logique.
Mais t'es même pas né sur les premiers matchs, Wilfried. Tu
même
peux pas
si
nous parler d'histoire
favoris
à chaque fois. Parlons de maintenant.
Mais attends, même s'ils sont favoris.
L'histoire, c'est sympa, mais il faut parler de maintenant. Il faut arrêter de parler dans le passé.
Comment tu omets de parler du contexte, de l'ambiance, du stade, de je sais pas moi, c'est de la motivation supplémentaire qu'ont avoir les Anglais. Donc tout ça fait que c'est un exploit. Parce que les Anglais vont être déterminés, vont être survoltés. Donc tu les affronterais en France, ce serait pas la même dynamique. Là, ça va être le contexte, fait la différence. Et c'est en ça que je dis, même si on est favori par rapport aux bookmakers, je pense que ça reste un exploit véritable de gagner.
Battez une fois dans votre histoire, vous les basketteurs, les grands, les génies, là, les vice-champions du monde éternels, battez une fois les Américains.
C'est déjà ensuite, fait. Ça a déjà été fait.
On dénigre pas ceux qui perdent en finale. En Coupe du Monde,
en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques.
Christophe,
oui.
Pour une place, pour une médaille.
Ah non, pas en finale. C'est pas non plus pour une médaille.
Là, c'est le championnat d'Europe.
Oui, mais c'est les 6 nations et c'est pas une place pour la médaille pour l'instant. C'est un match important pour gagner à la fin, mais c'est pas actuellement réellement
c'est
un match
pour la finale. C'est ce que tu veux me dire. Oui, Julien, après on accueille Franck.
Christophe, ne sois pas méchant avec ceux qui perdent en finale, Christophe. Il y a des gens très bien qui perdent souvent en finale, donc ne sois pas méchant avec eux quand même.
Non, mais, je suis totalement d'accord. Merci de le rappeler. Et de défendre ton honneur.
Est-ce que je peux rebondir justement
sur ça? Rapidement, après j'aimerais qu'on accueille Franck.
Justement, je vais prendre l'exemple de Christophe. Quand on bat les Américains la première fois, c'est un exploit. Depuis, on dit plus que c'est un exploit. C'est normal de gagner
de Pogacar, s'il arrive à gagner 4 fois, 5 fois le Tour de France, c'est pas parce qu'il l'a déjà fait que ce sera pas un exploit qui gagne, parce qu'il va marquer l'histoire. Et là, le 15 de France peut remarquer l'histoire en allant gagner deux fois de suite à Twickenham, en ayant gagné que 12 fois.
La première fois, encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce n'est jamais arrivé. Après, on l'a fait, en plus, on l'a fait deux fois de suite.
On a compris, les copains. Franck nous appelle au 32-16, il va tenter de se faire une place dans cette émission et peut-être de trancher le débat. Bonjour, Franck.
Bonjour, vous allez bien? Bonjour
à Denis,
j'espère qu'il fait beau à Londres.
Ouais, super.
Ça, c'est moins sûr. On
peut ouvrir les rideaux encore, Denis, c'est pas.
Ouais. Bon, si j'ai ouvert les rideaux, il fait dégueulasse.
Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, puisque j'ai écouté un peu aussi les réactions sur le Moscato Show cette semaine, c'est de savoir si aujourd'hui, Jalibert va vraiment s'installer en numéro 10. Et moi, je pense que le problème de Jalibert, c'est pas Galtier. C'est tout simplement Dupont qui fait un peu ce qu'il veut, et surtout de Dupont et des Toulousains, avec Ramos, avec Ntamack. Bon, là, Ntamack ne joue pas. Galtier a dit que éventuellement si Ramos ne pouvait pas passer,
ça n'a rien à voir avec la chose.
C'est le débat de 11h.
Il faut qu'on revienne à 11h. Reviens à 11h. Ouais, 11h10,
11h15. Ah, mais je reviendrai à 11h. Il n'y a pas de problème.
En plus, je suis venu pour mettre un coup de rap aux Toulousains.
Voilà.
Mais Franck, c'est toujours un exploit ou pas de gagner à Twickenham selon toi?
Moi, pour moi, les Anglais, les Irlandais sont les plus forts du tournoi, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire le même match, faire le dos rond pendant la première mi-temps. Et je pense que la France, oui, va dérouler en deuxième mi-temps.
Ok, sûr. Donc peut-être que de gagner en Irlande cette année, c'est un exploit, mais peut-être un petit peu
dur.
Moins.
Ça va être beaucoup plus dur.
On est d'accord.
Est-ce que ça vous achète une frite, vous voulez réagir tout
en
temps.
Je ne suis pas si sûr que l'Irlande déjà gagne demain en Écosse. Donc,
Ouais, je pense qu'il peut
Là, on est en train de banaliser d'aller jouer les Anglais chez eux cet après-midi.
Mais bah non, on les banalise pas, mais non, il va y avoir...
Attention,
il va y
les
avoir
mecs, ils ont pris 50 points dans le rugby. On les a battus que de 2 points l'année dernière. Alors la France était moribonde. Donc il ne faut pas banaliser. Donc si on banalise
pas les Anglais, c'est pas un exploit de les battre. Il ne faut pas le banaliser contre les Anglais.
Franck, j'arrive.
Victoire arrachée par Ramos sur un coup de pied la dernière minute du match. Donc ça aurait été un exploit pour les Anglais de venir nous battre après avoir pris 53 points.
Oui, clairement.
Évidemment.
Parce qu'en fait,
c'est un exploit pour les Anglais de venir gagner en France. Comme c'est un exploit pour les Français.
Quand on a pris 53 avant, oui, bien sûr.
Ils vont aller se balader dans le salon, Christophe et Fred, tous les deux, ils vont se réconcilier, ça va être bien.
Main dans la main.
Ouais, main dans la main, on va vous fumer dans le salon.
On va le prendre pour mon papa.
Denis Charvet, un dernier mot sur ce match avant de te libérer. Évidemment, ce sera à suivre avec vous, messieurs, avec Christophe, à partir de 17h. C'est une soirée et une après-midi, fin d'après-midi exceptionnelle, de 17h à 20h, en direct de Twickenham. Autour de cette rencontre, est-ce qu'on peut imaginer, Denis, à un moment donné, que les Bleus réalisent la même performance qu'il y a 2 ans? Non. Ou non, ça s'est exprimé?
Non, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde par rapport au niveau des Anglais, j'en parlais tout à l'heure, et de la difficulté qu'on va avoir à relever le défi au niveau du combat. Itoje, le capitaine, a annoncé la couleur. Il dit il faudra qu'on soit physique, qu'on gagne la ligne d'avantage. Je crois qu'ils vont essayer de nous faire mal devant. Est-ce qu'ils vont tenir sur la durée? J'en suis pas certain, parce qu'on a le banc, on pourra faire la différence à un moment donné à la 60e minute. Mais sincèrement, je vois pas du tout une raclée. Je vois un match très serré et surtout très rude. Un match un peu à l'ancienne, voilà. Avec peut-être et des cartons jaunes.
Sur un carton rouge.
Avec jaune rouge. Jaune rouge.
Et Denis Wilfried, il fait quoi? Et ils annoncent quoi comme temps aussi? Parce que il pleut, du vent, ou ça va?
Normalement, c'est gris aujourd'hui. Normalement, il n'y a pas de pluie.
Ok.
Ouais. C'est pas beau. Il fait pas beau, mais,
bon. Attention au ballon, attention aux chandelles.
La pelouse est magnifique. Non, on peut jouer. On peut jouer quand même à Twickenham sans problème. Ah, à mon époque, la pelouse, elle faisait je sais plus combien de centimètres.
Ah là, elle est super.
On pouvait pas jouer. Donc là, c'est bon.
Ouais, mais tu faisais la différence avec tes cannes.
Mais oui. Et là, pour vous, à votre époque, c'était.
T'as gagné, Denis, à Twickenham, toi, Denis?
J'ai gagné une fois, oui, pour le Grand
Chelem. Mais pour Fred, c'était pas un exploit. Donc,
c'est un exploit. En fait, ça reste. En fait, tu peux le répéter autant que tu veux, Julien. Ça n'empêche pas que tu es tort. En fait.
Je crois qu'on a compris vos positions. En tout cas, on remercie Franck d'avoir appelé, qui avait un peu d'anticipation. Il voulait nous parler de Mathieu Jalibert. On en parlera évidemment à partir de 11h. Est-ce qu'il peut se faire une place dans cette équipe? On revient dans quelques instants. Merci Wilfried et Denis. On vous retrouve un petit peu plus tard tout au long de la journée sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping. On s'en fout pas. Et notamment un derby madrilène sous haute tension. Ce soir, on sera en direct de Madrid, toujours avec les GG. Et puis à partir de 10h, on parlera du Paris Saint-Germain. Encore une victoire 4-1 hier face à Monaco. Ce PSG est-il plus fort sans les grandes stars? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Ça n'a pas un impact pas sur tout. Le collectif. Ça n'a pas un impact sur l'arbitrage. Ça n'a pas un impact sur l'arbitrage.
Les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile.
Bien sûr que non.
Mais bien sûr que oui.
Mais en rugby, c'est pareil.
Jean-Christophe Drouet.
9h43, de retour dans les grandes gueules du sport, toujours en direct du salon Rétromobile, salon des voitures de collection, avec des GG très en forme. Hein. Elles s'embrouillent dès le matin, dès 9h le matin. Je ne sais pas comment vous faites.
Il n'y a pas encore billard de collection pour mettre Fred dedans. Là.
Alors vous n'êtes pas assez nombreux pour m'y mettre dedans. Hein. Ça, je ne pourrais pas vous prévenir.
Alors j'ai une vanne quand même. Je ne sais pas qui est le plus proche du corbillard entre Christophe et Fred. Mais j'ai mon idée sur la question. Toujours avec vous, les GG. À partir de 10h,
10h, on va parler du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-1 face à Monaco hier. Le Paris Saint-Germain extrêmement fort en ce moment, est-il plus fort sans les grandes stars? On se posera la question et ce sera un 2 contre 2. Ce sera le bras de fer des GG dans quelques instants. On s'en fout pas, mais vous le savez, dans une heure, c'est à vous de jouer les GG en nous proposant un débat. Vous avez quelques secondes pour nous appâter avec votre proposition, votre débat. Fred Weiss, on va commencer avec toi. Tu proposes quoi?
Ben, j'ai réfléchi longtemps et j'ai vu qu'il y avait des fenêtres internationales et les filles au basket avaient joué ces fenêtres internationales.
Incroyable,
tu vas jamais gagner.
Non, mais écoutez ouais, cette info.
Et en fait, c'était France-Irlande. La France avait besoin de gagner impérativement et finalement, elles se sont imposées 125-24.
Et c'était un exploit.
Donc je me pose la question, est-ce que si l'Irlande joue contre la France, c'est un exploit de les battre? Et dans ce cas-là, ça en serait un. Parce que je pense que ça devient un petit peu ridicule. Ce qui devait au départ être hyper sympa, parce que ces fenêtres devaient inciter tout le monde à jouer les uns contre les autres, les petites nations, etc. Sauf que ça tourne à la bouche. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant?
Ils sont un peu nuls, de toute façon, au Royaume-Uni, en termes de basket, non? C'est pas leur point, pas beaucoup.
101 points d'écart. Non, mais c'est fou, hein, dans un match international.
C'est le record.
Je suis tombé dessus, moi, sur le match. Avec mon fils, on a regardé 5 minutes.
Je te respecte.
On n'en revenait pas, mon fils, il me dit, mais regarde, il y avait 19 ou 21-0, il y avait. Ouais. Je dis, c'est un score de rugby, en fait.
Oui, c'est ça.
C'était hallucinant.
C'est hallucinant, c'était un peu.
Bah voilà, c'est la proposition de Fred. Julien, tu proposes quoi, toi, aujourd'hui?
Je voudrais reparler des résultats des clubs de Ligue 1 en Coupe de France. Et on est en quart, il y a 8 équipes, il n'y a que 4 clubs de Ligue 1. À part Paris, en plus, les 3 autres ne sont pas dans. Ce n'est pas les cadors du championnat, on va dire, même si on respecte Brest. Et aussi, je pense que c'est lié à la programmation de cette Coupe de France où les matchs sont au milieu de semaine, à 18h, en milieu de semaine, on en a déjà parlé, mais je trouve ça ridicule. C'est une compétition mythique, ça devrait être un objectif pour pas mal de clubs. Donc j'accuse les clubs de Ligue 1 et certains joueurs de Ligue 1 de prendre cette compétition un peu par-dessus la jambe et en même temps les organisateurs de faire mourir cette compétition en la programmant en milieu de semaine et pas le week-end comme ça devrait être pour être une belle fête dans toutes les villes de France.
Émile Beneteau ou Julien Zola, il accuse les clubs de Ligue 1. Bon, ce sera dans quelques instants avec Julien Beneteau. Si vous votez pour lui, évidemment, sur le compte X des grandes
villes. J'ai jamais gagné une contre-attaque, les gars. Donc, votez pour moi.
T'en as jamais gagné une?
Jamais une. C'est comme les finales. Je suis constant.
Mais t'es pas loin.
Je suis constant.
Mais je sens que parfois t'es pas loin. Oui. T'es arrivé deuxième la semaine dernière. On y croit évidemment.
Donc
pour
vous voulez
cette
dire
fois-ci.
Qu'il se peut qu'il y ait un exploit aujourd'hui s'il gagnait.
Ce sera un exploit. Ça, c'est vrai. Christophe Cessieux.
Moi, j'ai envie de vous parler de celui qui va un jour succéder à un grand coureur français. Parce que vous savez, dans le vélo, c'est un peu la chasse éternelle aux successeurs. On va fêter cette année les 40 ans de la dernière victoire de Bernard Hinault au Tour de France. En termes de Paris-Roubaix, le dernier vainqueur, c'était un vainqueur de chez Marc, mais c'était 1997. Eh bien, moi, j'ai peut-être trouvé un petit coureur là qui va petit à petit monter en gamme. Il a fait sa première saison professionnelle l'année dernière. Il a gagné la première course à laquelle il a participé. Il a été gravement blessé en septembre. Et là, il fait la première course de sa saison et il se remet à gagner. Il était en tête de l'étoile de Bessage. Malheureusement, il a été contraint de se retirer avec toute son équipe. Il s'appelle Paul Magnier et je peux vous dire que celui-là, si les petits cochons ne le mangent pas, un jour Marco essaiera de le recruter, mais ça sera
trop tard pour lui. J'avais déjà essayé.
Ah, ouais. Ah, il est pas chez Marco, malheureusement. Non. Malheureusement, l'étoile de Bessèges, hein, ce qui s'est passé hier, le chaos sur l'étoile de Bessèges, on en parle à partir de 11h30. C'est la proposition de Christophe Cessieux. Marc Madiot.
Alors moi, ma proposition, elle est en lien avec les JO. On parle beaucoup des JO de 2030, de la présidence des JO, et moi j'ai envie de parler aussi de sport un peu sur ces JO 2030. Et à l'initiative de David Appartien, il y a une idée qui fait surface, c'est de mettre le cyclocross aux JO d'hiver. Et c'est une très très bonne idée. Parce que c'est un sport hivernal qui se déroule parfois dans la boue. Il suffit de regarder ce qu'on a vécu le week-end dernier au championnat du monde de cyclocross. C'était extraordinaire, fantastique, ambiance d'exception, et ça a toute sa place.
Sauf qu'il n'y a pas eu de course, quoi.
Mais parce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui est plus fort, mais j'ai pas envie de gagner parce que le sujet de Marc m'intéresse vraiment.
Ok, donc même là en finale, tu préfères perdre. Ouais.
Il veut perdre. En fait, il faut
voter pour moi.
Exactement.
Pour moi. Ok, c'est sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous pouvez aller voter. On fait le débat dans une heure. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est le derby madrilène ce soir sous haute tension. On s'en fout pas. Julien Beneteau.
Je m'en fous.
Ok, Marc Madiot.
S'en fout pas.
Ah, merci Marc. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Ok, Fred Weiss.
Ouais, je suis Marc.
Ah, merci, tu me fais plaisir.
Voilà, bravo.
Avec toi.
Bravo, mon cher Marc. Alors que Julien Bennett montre à tout le monde une feuille. Je vous le dis, hein, c'est de la radio. Il est en train de préparer un air zapping. Il s'en fout de toutes mes informations. Alors ce soir, le derby madrilène entre l'Atlético et le Real promet d'être bouillant. Écoutez-moi bien, parce que c'est extrêmement intéressant. Depuis plusieurs jours, les deux équipes sont en guerre autour de l'arbitrage. L'Atlético de Madrid n'a pas apprécié d'apprendre que le Real s'était officiellement plaint auprès de la Fédération espagnole de son arbitrage face à l'Espagnol. C'était le week-end dernier. On retrouve notre correspondant à Madrid, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut les GG, même ceux qui ont dit on s'en fout.
Mais on s'en fout pas de toi, Edgar.
Mais c'est à toi de les convaincre, mon cher Edgar. C'est vrai que je le disais, le derby est déjà très très bien lancé depuis le début de la semaine.
Oui, il y a notamment une histoire de bande dessinée sur les réseaux sociaux. L'Atlético de Madrid s'est amusé à publier des instructions pour bien préparer le derby avec le dessin d'un bonhomme qui fait différentes activités. Étape 1, se préparer physiquement. Étape 2, recevoir un massage. Étape 3, analyser la tactique de son adversaire. Et puis étape 4, utiliser sa chaîne de télévision officielle pour mettre la pression aux arbitres. Référence évidemment à Real Madrid TV qui s'est encore plaint de l'arbitrage ces derniers jours. Tu le disais, le Real a même envoyé une plainte officielle à la Fédé après le match contre l'Espagnol Barcelone. Pour Javier Tebas, le président de la Liga, le Real a perdu la tête. Voici la réponse de Carlo Ancelotti.
Que Tebas reste tranquille, car ici personne n'a perdu la tête. On a demandé une explication pour améliorer les choses et changer un système dont personne n'est satisfait, parce qu'ils disent que c'est un système qui favorise le Real Madrid. Mais quand le Real veut changer ce système, tout le monde est contre. Ça me surprend un peu.
L'entraîneur du Real refuse de réagir aux publications de l'Atlético sur les réseaux sociaux. Diego Simeone, le coach adverse, n'a pas voulu en rajouter non plus. Mais s'il y a bien une personne qui essaie de calmer le jeu, c'est Antoine Griezmann. Écoutez.
Il faut arrêter ces bêtises. Maintenant, peu importe qui arbitre, ils vont au stade avec la peur de commettre une erreur. Ils savent que tout le monde est en train de les regarder. Ce n'est pas bon pour l'arbitre d'aborder un match de cette façon. Il faut les laisser tranquilles.
Évidemment, avant l'arbitrage, la tension autour du match s'explique surtout et avant tout par l'enjeu sportif. Le Real est premier, l'Atlético deuxième, à seulement un point de son voisin.
Merci Edgar Grollo pour toutes ces précisions. Reste avec nous quelques instants pour ce match ce soir, c'est à 21h. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Marc Madio, c'est vrai que l'acteur majeur de cette rencontre, c'est fou de le dire, ça va être l'arbitre ce soir.
Oui, mais là on est un petit peu comme dans la pesée d'un combat de boxe, d'un championnat du monde de poids lourd, où il y a les adversaires s'invectivent et on fait monter la pression avant le match. Et là on est dans la même situation avec un match de football. Le Real contre l'Atlético, c'est un classico, c'est un des matchs phares de la saison. Et il est logique qu'il y ait une mise en pression de part et d'autres pour essayer de tirer avantage de la situation. Pour moi, ça reste quand même un match majeur et un match à suivre et à regarder et à observer.
C'est vrai, mais à ce point que l'arbitre soit mis sous pression.
Mais c'est normal, c'est logique, c'est dans la logique des choses. En boxe, c'est la même chose, mais là, on est un peu dans la même situation avec une montée en pression pour essayer de tirer avantage de la situation. Donc moi, ça ne me choque pas.
Et sachez que c'est la première fois ce soir que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann vont aussi se retrouver sur un terrain. La dernière fois, c'était en septembre dernier. Dans un match face à l'Italie avec l'équipe de France. Depuis, vous le savez, Antoine Griezmann a tiré sa révérence et a pris sa retraite internationale. Donc, ils vont se retrouver sur un même terrain ce soir parce que Kylian Mbappé n'était pas là au match aller. Merci beaucoup, Edgar Grollo. Évidemment, on te suivra ce soir autour de cette rencontre et peut-être demain dans les GG. Tu viendras nous dire comment ça s'est passé et notamment en ce qui concerne l'arbitrage. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner ce matin, c'est Brest qui s'impose en Ligue 1 avant le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On s'en fout pas. Je tente un Julien Beneteau. Julien.
Quel exploit, je m'en fous.
Ok.
Ils en prendront 3 ou 4.
Marc Madio.
On s'en fout pas.
Heureusement que Marc est là ce matin dans cette émission pour ne pas laisser tomber un soldat. Merci Marc. Fred Weiss.
Je m'en fous.
Ok. Christophe Cessieux.
Je m'en fous. Sinon, t'as pas d'autres infos à part le foot, non. T'as des trucs, non.
Ok. Merci Marc en tout cas. Double prime pour Marc Madio ce matin. Merci. Alors Brest s'est imposé sur la pelouse de Nantes hier. Brest qui revient bien en Ligue 1, mais l'essentiel pour Brest, évidemment, c'était de se rassurer avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Brest est encore en Ligue des Champions, encore en Coupe de France. Et je vous propose d'écouter Pierre Lesmelou, pardonnez-moi, autour de cette rencontre et avant ce choc face au PSG.
C'est inespéré. Tout le monde nous enterrait avant même de la commencer, cette compétition. Donc pour nous, c'est que du bonus. Et c'est juste dommage de tomber pareil, quoi. Moi qui suis un supporter de Bordeaux, ça m'a fait penser un peu à cette époque-là où Bordeaux était tombé contre Lyon, justement en quart de finale. On va essayer de défendre nos valeurs, de jouer à fond ce coup-là. Tous les clubs qui sont qualifiés sont des montagnes par rapport au petit club de Brest. On n'y va pas en petit enfant, quoi, si j'ai envie de dire. On va essayer de se défendre et de jouer au mieux notre carte.
Marc.
Moi, je pense que Brest est dans une année euphorique. Ils ont réussi tous leurs matchs importants et je serai Paris et je pense qu'il faut qu'ils se méfient.
Tu penses qu'il y a un match autour de cette rencontre ?
Ça va être un match particulier. On est en Ligue des Champions, mais on est entre deux équipes françaises. Tout le monde préférerait éventuellement jouer contre une équipe étrangère. Surtout Brest, puisque c'est leur première participation en Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il faut quand même être très attentif, même si, in fine, on peut supposer que le PSG va s'imposer. Mais méfiance, 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 méfiance.
C'est mardi soir et ce sera à suivre sur RMC. Troisième information dans le zapping des GG. On va voir si vous allez tous, hormis Marc, faire un air zapping. C'est Alexis Lebrun qui est en demi-finale du Grand Smash de Singapour. Et ça, c'est un exploit. Je peux vous raconter pourquoi, si ça vous intéresse, évidemment. Fred Weiss, t'as le droit de dire, je m'en fous. Hein.
Non, on s'en fout pas.
Ah, on s'en fout pas. Christophe.
Non, tu as fait un effort. Tu es sorti du foot, donc je vais t'écouter.
Ok, merci.
Non, pour une fois, je m'en fous.
Julien Bennett.
Je reste avec Marc, là, pour l'instant.
De la constance dans ce zapping. Une information donc très rapide à vous donner. C'était la grande rentrée des frères Lebrun après leur petite coupure hivernale. C'est le grand smash de Singapour. Hein. C'est l'un des plus gros tournois du circuit. Et sachez que Alexis Lebrun vient de se qualifier en demi-finale. C'est une réelle performance parce que c'est la première fois qu'il se qualifie pour une demi-finale dans un grand smash. Ce serait la première fois qu'un Français accède à une finale dans un grand smash. Ouais. Donc forcément, on va suivre cette performance est en fin de matinée à Singapour.
Que le grand schmash te mouffe. Non, mais c'est très bien. Juste le truc, c'est qu'ils essayent de faire un peu comme au tennis, c'est-à-dire d'instaurer des grands événements et tout ça. Mais pour nous, ça ne veut rien dire. Le grand smash de Singapour. Est-ce qu'on connaît l'histoire du grand smash de Singapour ?
Oui, mais peut-être grâce au
grands smash, leur introduction, c'est en 2022. Donc c'est vrai qu'il y a.
Ah ouais. Disons, mais même
les participent à ça. Ils nous aident quand même, les Lebrun.
Ouais,
à appréhender le.
Mais bon, j'aimerais bien savoir quel est le Wimbledon du ping-pong. J'aimerais bien savoir quel est le Roland Garros du ping-pong. Ça, tu pourrais les mettre sur une terre battue, mettre la table de ping-pong sur une terre battue, les faire glisser. Enfin, essayer de faire des trucs un peu
différents. Tu veux inventer un nouveau sport, quoi.
Ouais, pas un nouveau sport, mais là, on a l'impression
que. Tu pourrais mettre dans une piscine.
Que tous les tournois se ressemblent. Parce qu'ils ont tous la même table, truc. Tu vois, essayer de
caractériser. De changer un petit peu le décorum pour bien identifier les tournois. En tout cas, sachez que les grands smash, ce sont les plus grands tournois de ping aujourd'hui au monde. Et ensuite, il y a un petit peu l'équivalent des Masters 1000 et ensuite des ATP 500. Donc voilà, il y a cette même logique de créer des événements. En tout cas, ce sera un événement, je le disais, pour Alexis Lebrun de se qualifier. Ce sera en fin de matinée.
Évidemment. Un tournoi en extérieur aussi, tu sais, avec un peu de vent.
Avec la balle, ce sera impossible. On en reparlera tout à l'heure. Tout à l'heure, dans les grandes gueules du sport, on suivra la performance d'Alexis Lebrun. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des GG, toujours en direct du salon Rétromobile. Venez nous admirer si vous avez envie, évidemment. Nous sommes au pavillon 2, au stand RMC Découverte. Allez, à tout de suite sur RMC, on parle du Paris Saint-Germain.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile.